Ça va? Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce encore que tu nous fais d'être présent ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est ta parole, Seigneur, que nous voulons entendre, pas la mienne. C'est ta voix. Touche nos cœurs, touche notre esprit, Seigneur, par ta parole. Merci. Amen. Mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Discerner les mauvaises influences. Est-ce que vous avez déjà remarqué, frères et sœurs, parfois dans des discussions qu'on a avec les uns et les autres, pas dans l'Église, hein, où parfois on a des paroles qui, ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Tiens, mais qu'est-ce qu'on est en train de me raconter là? Je ne comprends pas ce qu'on est en train de me dire, parce que je sens derrière qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole? Enfin, de cet événement qui est rapporté en Matthieu 16, 23, où Pierre, qui s'était cru alors bien inspiré, dit à Jésus, non, mais tu vas pas mourir sur la croix, hein, c'est hors de question. Est-ce que vous vous souvenez ce que Jésus lui a répondu? Waouh! Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. J'aimerais ce matin que, alors j'ai déjà parlé devant vous du combat dans les pensées, pour certains d'entre vous qui étiez là. Nous sommes dans un champ de bataille aujourd'hui, enfin ça fait plus de 2000 ans, hein, le champ de bataille de nos pensées. Le champ de bataille spirituel dans lequel Dieu nous a placés. Et j'aimerais qu'on fasse un focus sur la façon dont on gère nos pensées, ça c'est fait. On le pratique un peu plus chaque jour. Mais la façon dont l'adversaire peut inspirer et nous faire tomber dans des pièges. Dans Luc 9, 55, Jésus réprime durement deux apôtres. Vous connaissez aussi ce passage. Dans la ville où ils étaient, on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Ses disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Être mal inspiré, ce n'est pas le lot que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. On peut aussi être mal inspiré si on n'a pas appris à discerner et résister aux pièges qui nous sont tendus. Ça peut toucher tout le monde si on n'y veille pas. Et personne n'est à l'abri. Personne. Et le but de ce message, encore une fois ce matin, c'est de nous aider à ne pas ou ne plus nous laisser utiliser par l'adversaire. Et en disant ça, je suis sûr que vous avez déjà en tête des conversations que vous avez eues dans vos familles, dans nos familles, avec les uns et les autres, où on voit bien que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. On peut être influencé par la chair, sans pour autant avoir un esprit mauvais. Ce qui caractérise l'action d'un mauvais esprit sur ou dans une personne, ça se caractérise spécialement par un comportement, une manière de parler négativement qui revient continuellement. Et chacun peut témoigner qu'il a été ou peut-être qu'il est actuellement confronté à des personnes utilisées par l'adversaire pour contrecarrer leur travail pour le Seigneur ou tout simplement pour compliquer leur vie. Comme je dis avec humour parfois dans les rencontres que je fais au quotidien dans mon ministère, je dis, je suis sûr qu'il y a des gens le matin, ils se lèvent en se disant, mais de qui je vais pourrir la vie aujourd'hui? Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? Ça n'existe évidemment pas dans l'Église. Et il y a des gens qui disent, mais qui est-ce que je vais bénir aujourd'hui? Chacun peut également témoigner quelquefois où il a utilisé sans trop s'en rendre compte, sur le coup, comme un élément qui, alors qu'il voulait faire du bien, a fait plus de mal qu'il n'a fait de bien. Ça m'est déjà arrivé. À qui ça n'est pas arrivé? Alors, comment savoir, alors, lorsque nous sommes influencés négativement? La confusion vient du fait que beaucoup de chrétiens vont souvent justifier ce qu'ils font et le disent de travers comme venant de Dieu. Et, encore une fois, ça n'existe pas dans l'Église. Il va se convaincre, comme Pierre reprenant Jésus, que c'est pour son bien qu'il dit et qu'il fait ces choses. Paul parle de chrétiens animés d'un esprit de dispute. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Tiens, aujourd'hui, je vais aller pourrir la vie de Paul. Pardon. Un esprit de dispute. Ces Philippiens dont parle Paul, ils annonçaient l'évangile. Donc, ils faisaient une œuvre pour Dieu, mais avec un esprit de dispute. Waouh! C'est-à-dire un mauvais esprit. Cette annonce-là, c'est-à-dire le travail qu'il faisait, va plus servir à décourager les gens à venir à Christ que de servir les intérêts de Dieu. Combien de fois avons-nous cru faire des choses pour Dieu et, somme toute, on n'était pas bien inspirés pour les faire? Peut-être étions-nous inspirés de Dieu pour faire ces choses-là, mais c'est dans la manière de les faire que ça a péché. Alors comment savoir si c'est vraiment de Dieu ou si c'est mal inspiré? Si c'est mal inspiré, ça va refléter une bonne partie de celui qui l'inspire. Et nous connaissons notre adversaire. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a lutté. Je vous disais en préambule que nous sommes dans un combat, frères et sœurs. Tous les jours. Ce combat que Jésus-Christ a vaincu il y a 2000 ans. Au prix du sang, au prix de sa vie. Les pharisiens qui s'estimaient être les enfants d'Abraham sont repris par Jésus qui leur dit qu'ils sont quoi, vous vous souvenez? Qu'ils ont pour père le... Vous avez pour père le diable. Parce qu'ils expriment les œuvres et la manière de faire du diable. Vous faites les œuvres de votre père.
Waouh!
Alors sans aller jusque-là pour ceux qui sont nés de nouveau, ce qui n'était pas le cas des pharisiens, lorsque l'ennemi influence quelqu'un, il lui insuffle les principes qui correspondent à ses propres attributs, c'est-à-dire que la personne va manifester une partie de ce qu'il est. Jean 8,41 nous dit, non, pardon, celui d'après, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et ça s'adresse à nous, frères et sœurs. Dans les définitions et les noms de Satan, on trouve des définitions de sa propre nature. Nature qui va influencer toute personne qui ne veille pas, chrétien ou non. On peut ainsi s'examiner et examiner les autres pour voir ce qu'il s'y dégage dans telle ou telle situation. Est-ce que ça correspond à l'Esprit de Dieu ou est-ce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Et l'œuvre de l'adversaire, elle est indissociable, premièrement, de l'accusation. Déjà, le mot diable, du grec diabolos, signifie accusateur, calomniateur. Apocalypse 12,10 nous dit Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Frères et sœurs, lorsqu'une personne accuse continuellement, calomnie continuellement, fait toujours des reproches, elle n'est pas influencée par l'Esprit de Dieu. J'irai même plus loin, certains parents croient pouvoir aider leurs enfants en les accusant continuellement. Certains couples, lorsqu'ils se parlent, sont constamment en train de se faire des reproches. Rien ne décourage plus que d'avoir l'impression de ne jamais avoir assez fait et de ne jamais avoir assez bien fait. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, rien ne décourage plus que de ne jamais être encouragé. C'est subtil. Si par exemple mes parents m'ont toujours accusé, j'ai moi-même pris l'habitude d'accuser les autres. Lorsque j'exhorte, lorsque je prophétise, lorsque j'exerce le ministère, pas moi, mais nous tous, même si mon don est de Dieu, il y a toujours cette touche d'accusation qui peut ressortir. Je me suis peut-être convaincu que c'est Dieu, mais ça ne l'est pas. Le mot diable signifie aussi adversaire, accusateur. L'adversaire. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Une personne mal inspirée va se sentir obligée d'être contre un tel, contre une telle, contre une idée, contre telle église, contre tel ministère, contre, voilà. Et certains, on ne peut pas parler avec eux sans que, pendant un quart d'heure, ils nous débitent toutes sortes de choses contre lesquelles elles sont. Et ces gens vont aussi facilement avoir l'impression que beaucoup de personnes sont contre elles, car un esprit d'adversité les inspire. Le diable est aussi qualifié de père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui, nous dit Jean 8, 44. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le mensonge est indissociable du diable. Donc de toute personne qu'il va inspirer, même momentanément. Cette notion de mensonge n'est pas toujours exprimée directement, sinon on le reconnaîtrait. En nous comme chez les autres, facilement. Mais elle est souvent liée à l'exagération. On peut mentir par exagération. Ou au contraire par dissimulation. Je ne dis pas ce que je devrais dire, comme c'est pas ouvertement un mensonge. Je me sens justifié d'utiliser une dissimulation. Frères et sœurs, gardons-nous de proférer des mensonges qui risquent, au bout d'un moment, de devenir des réalités dans nos vies et qui va faire en sorte qu'on va finir par y croire. Et Éphésiens 4, 25 nous dit « Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. » Frères et sœurs, parlons-nous avec vérité. Un autre nom de l'adversaire, c'est le destructeur. Apocalypse 9, 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, le destructeur, et en grec Apollyon. Et Jésus a dit au sujet de Satan que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Lorsque, inconsciemment même, on est influencé par les ténèbres, on va provoquer la destruction. Quand tout ce que je touche est détruit au lieu d'être construit, attention. Certains détruisent leurs épouses, leurs maris, leurs enfants, leur église, pas ici. Ils détruisent même avec des versets bibliques dans la bouche. Attention. Si c'est le constat que l'on fait, il faut réagir et changer sa manière de faire et de parler. Ne continuons pas dans cette voie. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. On pourrait dire qu'il en faut pour un chrétien, pour qu'un chrétien soit amené à être influencé par l'adversaire, au point de devenir un meurtrier. C'est vrai. Il faut quand même être influencé. Hein. Mais 1 Jean 3,15 nous dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Waouh. Le Seigneur a placé la barre haut. Très haut. Et Jésus, de son côté, a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Jésus dit donc ici de la manière dont nous parlons aux autres peut être assimilée à un meurtre. On peut donc tuer les gens avec des mots. Vous êtes d'accord avec ça ? On peut tuer les gens avec des mots ? Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tellement les mots peuvent faire du mal. Prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Sortez du milieu d'eux, dit Paul aux Galates. L'origine de Satan passe par l'orgueil et par la rébellion. Satan était un ange très élevé qui s'est rebellé contre Dieu. Le rebelle, il usurpe l'autorité et veut prendre la place d'un autre. Ésaïe 14, 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » La rébellion nous caractérise lorsque on est sous une mauvaise influence, frères et sœurs. Lorsqu'on est mal inspiré, une chose que l'on déteste, c'est l'autorité. Je ne parle pas de cette rébellion contre le péché. Je ne parle pas de cette rébellion contre l'injustice. Je parle de cette rébellion qui refuse de se soumettre à l'autorité. On va essayer d'éviter de se soumettre à l'autorité. On va faire des démarches sans passer par l'autorité. On veut servir Dieu sans respecter les règles que Dieu lui-même a mises en place. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. La rébellion est liée au refus que les autres aient un droit de regard sur mes actions, sur ce que je reçois de la part de Dieu. Car le refus de l'autorité engendre le refus de rendre des comptes. Nous sommes d'accord que l'analyse des autres n'est pas toujours une référence. Mais c'est une question d'état d'esprit. D'au moins vouloir être ouvert, vouloir être disposé. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. L'orgueil, ce qui a fait chuter Satan, c'est son désir d'être au-dessus de Dieu. Il s'est enorgueilli de sa position d'ange chargé de la louange auprès de Dieu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Comment reconnaît-on l'orgueil en nous-mêmes ? L'orgueil engendre une fausse assurance. Nous sommes appelés à avoir de l'assurance en Christ. Mais il y a une assurance qui est trompeuse, qui est engendrée par l'orgueil. Si je donne une parole et qu'elle s'avère juste, je vais tenter dès lors de considérer que tout ce qui me vient comme parole vient de Dieu. De ce fait, je suis tenté de prendre un ascendant sur les autres comme étant celui qui a toujours raison, que l'on ne doit plus contredire. Et c'est là le piège. L'assurance que j'ai prise en étant juste devient mon occasion de chute. Et cette fausse assurance qui fait chuter des milliers d'intercesseurs de ministère, c'est l'orgueil. Alors que faire ? Veiller. Se méfier de soi-même. Se méfier de sa chair. Tant que la chair, ma chair est mon partage, je peux me jouer des tours dès que je baisse la garde. Si je m'appuie sur moi-même, attention danger. Être humble, c'est penser justement que je dois veiller car je peux basculer et me tromper. Veiller les uns sur les autres. Rester humble est incontournable car c'est l'orgueil qui crée l'aveuglement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Alors, frères et sœurs, nous avons une responsabilité et je vais terminer avec ça. On sait que dans nos pensées, il y a tout un tas de choses. Nos pensées, les pensées de Dieu. Jésus a dit, vous avez, Paul a dit, vous avez la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Et la pensée qui ne vient pas de Dieu ni de moi, qui vient de l'ennemi. Et notre responsabilité, on a bien une responsabilité face à cela. Quand Jésus s'adresse aux pharisiens qui croyaient tout connaître et être dans la vérité, il leur dit ceci. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Un esprit a besoin d'une prise pour demeurer. Pour cela, il a besoin qu'on le laisse faire. Ne donnez pas accès, ne donnez pas au diable l'occasion de prise, l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. On est appelé à analyser toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Dieu prophétise tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'est servi d'un âne, d'une ânesse. Sers-toi de moi, Seigneur. Nous entendons des paroles qui sont aussi des paroles venant de Dieu dans la bouche des uns et des autres. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Frères et sœurs, je vous encourage, chacun, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez cette capacité de prononcer une parole qui vient de Dieu, parole d'encouragement, parole de discernement. Et c'est à nous, chacun, qui avons cette responsabilité d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon, de discerner les esprits. N'ajoutez pas, bien-aimé, à la foi tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Être animés, nous-mêmes, d'un bon esprit, de l'Esprit de Dieu. Dans Nombre 14, 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. » Et nous sommes appelés à rejeter ce qui n'a pas sa place dans nos vies. Il est là le combat, frères et sœurs, aussi. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Rejetez. Il y a bien une action. Ça implique une action. Dans les situations que nous traversons au quotidien, nous avons cette responsabilité de discerner ces choses-là et de se mettre en mouvement pour rejeter. Rejeter l'animosité. Rejeter la calomnie. J'ai déjà dit à quelques-uns ailleurs, ça, mes oreilles ne sont pas des poubelles. On n'y déverse pas tout ce qu'on a envie d'y déverser. Donc, ce que tu as envie de dire, je ne veux même pas l'écouter. Tu le gardes pour toi. Rejetez la calomnie. Rejetez les paroles choquantes sortant de votre bouche. Le point majeur de ce message, c'est que avant de discerner ce qui ne va pas chez les autres, assurons-nous que nous ne sommes pas nous-mêmes influencés. Et si c'est le cas, réagissons par la prise de conscience de tout ce qui vient d'être dit ce matin. Nous sommes dans un combat, frères et sœurs. Dieu nous a déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Oui, nous passons par des épreuves. Pour certains, vous y êtes encore. Jésus a trouvé l'issue. Donc si pour un peu de temps vous êtes dans l'affliction, levez vos yeux vers le Seigneur. Le Seigneur nous a placés dans un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, qui implique à un moment donné de relever la tête, qui implique à un moment donné que j'arrête de regarder à ma situation et que je me mette à rechercher premièrement le royaume de Dieu et toute chose me sera donnée par-dessus. Est-ce que vous voulez rentrer dans ce combat, frères et sœurs ? Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci parce qu'elle est puissante. Tu es créateur du ciel, de la terre, de tout l'univers, Seigneur. Chose que notre intelligence n'est pas capable de comprendre et ne sera jamais capable de comprendre tant que nous ne serons pas avec toi en face de la vérité que tu es. Parce que nous saurons toutes choses. Aujourd'hui, nous les voyons comme au travers d'un miroir sans teint, de manière floue. Mais bientôt, nous connaîtrons toutes choses. Merci, Seigneur, pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour ton esprit qui habite en nous, Seigneur. Et encore une fois, nous ne méritons rien, mais nous acceptons ce privilège que tu nous as fait, cette grâce que tu nous as donnée, d'être assis dans les lieux célestes avec toi, déjà, maintenant, parce que nous avons mis notre foi en toi, Seigneur, et tu ne réclames rien d'autre que le sacrifice de notre foi, de notre louange. Merci Seigneur, je prie pour ton Église. Ouvre nos yeux, Père. Mets dans nos yeux ce collier dont nous avons besoin pour discerner quelle est ta volonté, pour discerner quels sont tes plans, pour discerner, Seigneur, ce que tu as fait de nous. Et garde-nous dans l'humilité que tout appartient, Seigneur. Qu'on ne mérite rien. Seigneur, nous confessons ce matin que nous avons besoin de toi à chaque instant de notre vie pour que nous résistions au piège du diable, pour que nous proclamions avec assurance ta parole à ceux qui sont perdus, qui ont besoin, Seigneur, que tu les sauves. Et qui ont besoin de comprendre que tu les sauves, parce que tu les as déjà sauvés, Seigneur, et tu n'attends qu'une chose, c'est qu'ils te disent oui. Alors permets-nous, Seigneur, d'annoncer avec assurance ton évangile. Parce que nous sommes ton Église, tu es le chef, Jésus. Et tu as voulu, Seigneur, que, oui, on se réunisse chaque dimanche, pour nous encourager les uns les autres, pour que nous puissions exercer les dons que tu as donnés les uns aux autres pour l'édification de ton corps que nous sommes. Mais tu as voulu plus que cela. Tu as voulu que nous témoignions là où nous sommes, dans notre quartier, dans notre rue, dans notre ville, au supermarché, à chaque occasion qui nous est donnée, Seigneur, que tu reviens bientôt. Alors, utilise-nous, Seigneur. Fortifie-nous, augmente notre foi. Nous avons besoin de toi. Et glorifie-toi dans ton Église. Amen.